de Vincent Calvet et Cyril Hurel, Insectographie. À mes enfants, Lucie, Pierre et Léonore, à mes parents, Lionel et René, à Jacqueline, ma grand-mère qui me manque, à ma compagne, Mathilde, soutien de tous les instants, à mon ami Bernard et sa famille, à qui je pense très souvent, tous mes remerciements à Patricia Rigaud pour son aide amicale et ses conseils avisés, toute ma tendresse à Jackie Fourmi pour nos longues balades sur l'Aubrac et sa précieuse expertise, et bien sûr à mon ami Vincent Calvet, co-auteur de ce livre. Pour réussir, la première condition, c'est la patience. Jean-Henri Fabre, Souvenirs entomologiques, 1897. Bousier trapu, Doryfort, ça mettait les pages d'un livre et la campagne ensemble. Tout un travail de couture entre le monde et les mots, entre ce qu'on voit et ce qu'on sait, dessous, retourné dessus, le plus frais, brillant, cicindèle, un peu vite, ou capricorne, qui bouge pas, sur l'écorce du prunier. Un peu plus tard, les voilà dans l'espèce de tiroir où tu les épingles selon l'ordre que t'a montré le livre, tout cousu, tout mouru. Qu'est-ce que t'as cru ? James Sacré, Anacoluptère, Tarabuste Éditeur, 1998. Présentation. Un bestiaire d'insectes. Il existe deux types de livres au sujet des insectes, les ouvrages à vocation scientifique et les œuvres à dimension littéraire. On rassemble ces livres dans la catégorie bestiaire. Aux origines, la dimension scientifique et la dimension littéraire ne sont pas bien distinguées. En effet, l'œuvre de Pline l'Ancien, 23-79, par exemple, est un bestiaire à vocation scientifique, mais nous le lisons aujourd'hui comme un ouvrage de littérature. Au Moyen-Âge, les bestiaires mêlent des textes descriptifs d'animaux, des études, des représentations graphiques, des fables et des poèmes. On appelle « registre » ces livres qui collectionnent un type d'objet précis, vivant ou inerte. L'herbier est un ouvrage sur les plantes et les fleurs. Un lapidaire est un ouvrage sur les minéraux. Le bestiaire concerne les animaux. On donne le beau nom de volucraire à un ouvrage sur les oiseaux, comme la série de Buffon, 1707-1788, titré « Les oiseaux », ou bien le beau poème de Saint John Perse, « Oiseaux », 1962. Il n'existe pas de nom particulier pour désigner le bestiaire d'insectes, mais ce type d'ouvrage a toujours existé. Peu d'œuvres de premier plan en littérature concernant les insectes. Des textes épars, inclus dans des proses, des poèmes ici et là, comme le Ver luisant de Rémy Bello, 1528-1577, au XVIe siècle, par exemple, dans Les amours et nouveaux échanges de pierres précieuses, vertus et propriétés d'Icelle. Les poèmes de Bello préfigurent les poèmes de Francis Ponge, où il s'est intéressé aux insectes, comme dans le livre « L'araignée », 1952. Pour ce qui est de la littérature entomologique, les lecteurs avéronnais seraient surpris que je ne cite pas le grand Jean-Henri Fabre, 1823-1915, dont les souvenirs entomologiques, 1891-1907, constituent une somme inégalée au sujet des insectes, et dont la haute qualité littéraire est indéniable. En tant que bestiaire, l'œuvre de Fabre en souvenir de La Fontaine, dont il était imprégné, mais aussi des bestiaires du Moyen-Âge et de Balzac, est également une comédie humaine totalisante. Du côté de la poésie proprement dite, les insectes sont peu présents, ou alors dans des poèmes épars à l'intérieur de livres qui traitent d'autres thèmes, comme c'est le cas du Ver luisant de Bello. Il faut attendre le symbolisme et le Belge Maurice Maeterlinck, 1862-1949, pour avoir un ouvrage d'approche poétique complet sur ce sujet, avec sa trilogie « La vie des abeilles » 1901, La vie des termites, 1926, et La vie des fourmis, 1930. Ce n'est pas à proprement parler de la poésie, mais chez les symbolistes, la poésie est partout. Et c'est la prose qui va dominer ensuite en poésie, comme on peut le constater en lisant les textes de Mallarmé qui ne sont pas versifiés. Les insectes, pour beaucoup de poètes, sont un écho de l'enfance, de la vie rurale d'autrefois, une Madeleine de Proust nostalgique d'un monde perdu, celui d'avant la société de consommation, d'avant les smartphones, d'avant l'Internet, et d'avant la pollution et les apocalypses écologiques. Moi-même, né en 1980, je peux témoigner de la disparition des insectes dans le jardin familial de Millau. Quand j'étais enfant
et que je marchais, pieds nus,
dans l'herbe grillée du jardin de mon grand-oncle, c'était des nuées de petites sauterelles grises, des papillons de toutes espèces qui abondaient, les gendarmes, les gros criquets, les carabes, les bousiers, les abeilles et les guêpes. Aujourd'hui, en été, je trouve ce jardin un peu mort en comparaison de ce qu'il était quand j'avais 6 ans, et cela m'attriste légèrement. Le petit ouvrage du poète contemporain James Sacré, né en 1939, que j'affectionne particulièrement, intitulé « Anacoluptère », Tarabuste 1998, doit être cité ici, car je l'ai relu plusieurs fois en écrivant ses poèmes. Le poète de Montpellier y exprime des souvenirs d'enfance dans une langue qui retrouve justement des couleurs nostalgiques délicieuses dans la gaucherie volontaire, des tournures de phrases. Cette espèce de langage parlé littéraire, un faux langage d'enfant ou de paysan peu éduqué, qui le caractérise. Particulièrement savoureux aussi, les souvenirs d'enfance de Serge Pey, né en 1950, dans la boîte aux lettres du cimetière, Zulma, 2014, dans lesquels il évoque la technique de la chasse au grillon qui consistait à pisser dans le trou de l'animal pour le faire sortir. Il raconte aussi comment les grillons étaient utilisés par les républicains comme sentinelles pour annoncer l'arrivée des ennemis en pleine guerre d'Espagne, au point qu'on avait donné à une brigade le nom de « Brigade des grillons ». J'espère que ce recueil rejoindra la collection des recueils de poésie sur les insectes, aux côtés de celui de James Sacré, et qu'il apportera une saveur nouvelle à ce thème. Ce livre est né d'une proposition de mon cher ami, Cyril Hurel, qui réalisait déjà des planches naturalistes de haute tenue, dont le talent artistique est indéniable. J'ai donc écrit cette série de poèmes à partir des insectes qu'il me suggérait et qui sont tous présents sur l'Aubrac. Ce sera le premier livre publié par ses soins et j'espère qu'il y en aura d'autres à l'enseigne Kyrillos Éditions. Vincent Calvet, Toulouse, mars 2021. Abeille domestique, Apis mellifera. De nos pensées vous faites le miel, puisant le pollen des lavandes, des lilas, des jacinthes, dans le pré de mai où le jardin est bourriffé, et ceint en ma tête de signifiant, longue chaîne de l'encre. Vous êtes image vive d'un passé qui hante, éveil suspendu. Vous dessinez un texte infini, réel, immanent, le va-et-vient de la ruche aux fleurs et dons de langue. Ainsi vont les mots de la tête à la main et de la main à la tête, du corps au monde. Apollon, Parnassius Apollo. Ange des cimes du Parnasse ou du Val d'Aoste, parmi les touffes de saxifrage que Char nous désigne en poète sûr de ses énigmes, et les centaurées succulentes, scabieuses, chardons, rhododendrons, gentianes, jacinthes, te voilà glissant très noble au-dessus des lacs gelés, tes larges ailes de chaux tachées de groseille, estriées d'encre, battent dans l'air glacé au gré des vents, des cimes enneigées, des cairns à la lumière des glaciers, aux cris des corbeaux, des cloches d'église. Belle dame, Vanessa Cardoui. Ton nom sortit tout droit d'un roman de chevalerie. Et moi qui suis ton Don Quichotte, âme de mon jardin, j'espère encore une issue de cette zone de ronce, ce long, fébrile, frémissant et frénétique parcours d'un pré à l'autre, depuis le mur en ruine, cachant l'or de Rimbaud, jusqu'à ce puits de briques ocre, depuis longtemps obstrué par la masse noire des remords, ta robe fauve dans les orties douloureuses de l'enfance perdue, et les chardons bleus ou mauves qui changent de saison. Belle dame, ô ombrelle rupestre et maladroite, et chargée de songes. Bourdon terrestre, Bombus terrestris. Tu es une grosse boule d'or, pleine de pollen, qui bombine, qui bombelle, gauche moins élégant qu'une abeille, notre érudite, mais simple comme un paysan du Piémont. Te voilà parmi les iris et les œillets, jouant de tes grosses caisses, grommelant, vautré, dans la grasse semence des fleurs, végétale, minérale, animale, tout entier dans la glèbe. Tu vas jouer au dé sur la table de l'espace, immodérément, avec l'emphase des histrions. Bousier, Scarabaeus laticolis. Roule ta bosse de Quasimodo, bousier de glaise. Tu as remonté éternellement la pente d'exister, avec dans les yeux cette lueur qu'ont les bœufs de nos labours, ce regard qui voit le ciel et les anges. Sisyphe des drailles, aux allures d'équilibriste, poussant ton malheur avec obstination, comme un ouvrier du bâtiment ou un forçat de Cayenne, nous pleurons ton misérable destin, confit de peine pour cet éternel retour qui ne te laisse pas d'espoir. Carabe doré, Carabus auratus. Tu resteras l'ami des jardiniers, Carabe doré. On saura te rendre justice un jour, quand le ciel s'ouvrira sans fin à la lumière, pour te laisser rogner les mauvaises herbes, les limaces grossières, les doryphores infâmes, pour ne point laisser gésir les infantes, pour nier la grande tuerie écologique, pour édifier, pour informer. Ta robe diaprée, ta cuirasse de cuivre, tes élytres veinés d'ocre, nous te rendrons justice pour le bien que tu fis. Cétoine dorée, Chétonia aurata. Hanneton des roses, qui t'aura vu naître en juin, parmi les prairies, c'est le deuil. Des primaires chaleurs tu signes l'aberration, tel rubis, émeraude, opale, jade, éreintant le pré mémoriel, les hautes herbes. Tu n'as pourtant aucune valeur pécuniaire, ta chimère t'aura précédé, et si tu es né trop tard, en automne, quand tout est froidure, tu dois manger les fruits blais que t'octroie le sort. Coccinelle, Coccinellidae. J'ai appris à compter sur le dos de cette espèce bénie. Quand le bourreau a pointé le canon de son fusil sur moi, elle est venue se poser sur ma paupière et il n'a pu tirer. Le roi y a vu une intervention divine, il m'a accordé sa grâce. Depuis, je remercie chacune d'entre elles quand je les vois se poser sur mon bras, dans le pré gras où je m'allonge chaque matin auprès des tombes. Rouge coquelicot mystique, tu es la pupille de l'œil qui me voit, et tout tourne autour de tes illuminations. Coccinelle, jante à pois, sur fond d'incantations et de safran. Éphémère, Ephemeroptera. Du lointain carbonifère, tu nous rappelles les lueurs et la fragilité de la nature, la bonne mère nature. C'est pour cela que nous t'avons réservé une place à part dans la nomenclature. Faux papillon, vrai androgyne, tu restes près des rivières, des lacs, peuplant les eaux stagnantes, au grand régal des rossignols et des mésanges, mais aussi des batraciens de toutes sortes et des malades chauves-souris. C'est ennué parfois, vraie plaie d'Égypte, que tu t'abats sur les routes, rendant fous les humains dans leurs cellules d'acier. Éphémère, tu ne vis pas longtemps, mais tu as résisté aux catastrophes. Gendarme, Pyrochoris apterus. Votre uniforme rouge et deux yeux comme des runes, le long de la tige de la rose trémière, en procession, celle qui a surgi dans la prairie, en été, d'herbes folles, comme un jaillissement aléatoire. Couleur, prisme, vous faites profession de messager les graines du haut de cette vigie miniature, et je n'aime pas ce nom qu'on vous donne, qui vous rend suspect aux yeux des humains, qui ne savent pas lire entre les lignes. Vous êtes liés à la passiflore dans mon imagination, et ainsi à quelque chose de désuet et de tendre. Accepterons-nous de te voir disparaître pour un confort matériel ? Grand Capricorne, Kerambix Kerdo. L'ouvrier morne appelé à ne jamais céder la nuit, comme enterré vivant et lié à la machine naturelle. Beau bélier stridulant, te battre pour rester en vie ou posséder une femme belle, jusqu'à en perdre les antennes, et ne jamais connaître que la matière même, le ciel, ombre larvaire, le chaos primitif. Grande sauterelle verte, Tétigonia viridissima. Une souris verte qui courait dans l'herbe, plus encombrante que tes petites sœurs grises qui s'envolaient en nuées quand je traversais le jardin de la parenté, en été, pieds nus, mais aussi plus rare, tu n'en demeures pas moins utile, nous débarrassant des insectes nuisibles, tels les gourmands d'oriphore. Crécelle des champs, de nuit comme de jour, n'hésitant pas à rompre brutalement un silence serein, tu te laisses difficilement envisager, appréhender. Tu franchis haies, prés, chemin, d'un vol long, comme celui de Saint-Ex ou Mermoz. Grillon champêtre, Grillus campestris. La nuit étoilée est un concert de Manuel de Falla qui ne finit pas, et non la symphonie monotone de Klein. Les couleurs, les sons, les odeurs se répondent, le pré rythmé comme une mer, les herbes se courbent dans le froid. Pourtant c'est l'été. Et toi, grillon champêtre, que me dis-tu ? Tu participes de cet instant de grâce. À ta place, qui est modeste, ô symbiose, cymbale, crécelle parmi les gentianes et les vestes de loup, toi et les myriades d'insectes bourdonnant dans mon crâne, les voix, la rumeur océane, ô grillon, je suis moins haut que toi, et je chante pourtant. Guêpe, Vespula vulgaris. Venu sucer le suc des figues molles et des mirabelles, tout le caramel coulant des treilles, envahissant la tablée, à midi, dans le jardin de l'oncle. vrillante, vitupérante, acide, agaçante, furtives et farouches, les guêpes, comme des mensonges d'incubes outragés, humiliant les peaux blanches d'une pointe de fiel, rageuses, obliques, sourcilleuses, crispantes, saillies d'on ne sait quelle tumeur maligne, vous êtes si proche de succomber au charme vertigineux du vin doux, de l'eau de vie, du marc de café et du miel que je vous scelle ici. Hanneton commun. Meloton tamé lolonta. Tu es l'animal de toutes les enfances enfuies. Ton souvenir a laissé des traces dans les vieilles cervelles paysannes. Ils se souviennent de ce jeu qui consistait à t'attacher à une ficelle et à te laisser tournoyer autour de leur tête. Ta disparition signifie la fuite de l'enfance, la fin d'un monde, l'exode et l'apogée des villes de suie et de verre. Une tristesse m'envahit. Hanneton, tu es parti sans nous. Libellule, Odonata. Un canot dérive paisiblement dans le courant pur. Le ciel est une émeraude. L'été accroche ses rires aux fenêtres. Pieds dans l'eau, regard au ciel qui fixe le défilé des nuages. Mouton dantesque. La musique de la rivière qui fait diverger la pensée. Je t'ai vu, ou entendu, dirais-je. Trille d'air léger. Frémissement, volant de pierre en pierre, de souche en souche. Et puis, d'un vol en zigzag, tu es venu te percher à la proue sur mon gros orteil. Lucane cerf-volant, Lucanus cervus. De ton vol vertical, nous tirerons une leçon de maître. Toujours droit se tenir, mais prendre un essor réel. Ainsi l'art et la vie restent liés. Toi, dans les vieux troncs pourris, lovés, tes cornes grotesques qui t'empêchent d'être compris, tu brailles, zézeilles, englué dans les ombres, mais rasséréné. Macaon ou grand porte-queue, Papilio Macaon. Je te compare à un flocon de neige tombé sur ma main. Éphémère, miraculeux. Je ne te vois plus dans le jardin d'outre-mémoire. Mais, là-haut, sur les plateaux herbeux, plus près du ciel, c'est comme une grâce de t'apercevoir. Tache bleue, pour le mâle, qui n'est pas plus impressionnant que son double féminin, qui ne pèsera pas davantage dans l'air mat. Lové dans l'œuf, sous les touffes d'ombelles, tu as rongé la paroi, surgi chenille. Puis très vite, tu ressens ce besoin de ne plus ramper, de renaître, de connaître l'envol, même si c'est seulement pour la beauté du geste. Mante religieuse, Mantis religiosa. De toi, J.H. Fabre dresse un portrait funeste. Il te dit mangeuse d'hommes, pieds et poings liés à tes ovaires, ogresse à laquelle un homme trop sentimental, et netto pour souffrir, a lié son destin, vendu ses derniers meubles et perdu la raison. Mais je sais que tu n'es qu'une petite bête, simple, nichée dans l'herbe, malgré tes airs farouches, quasi agressifs. Une petite bête que le bon Dieu a faite. Rosalie des Alpes, Rosalia Alpina. Tu as choisi de trouver refuge dans les bois de hêtres sombres, plus haut, là où les vents soufflent. Tu es si bien dans cet enclos de nuit et de feuillage, comme Fargue dans les cafés parisiens, à l'abri des violences de la ville. On a peur que tu ne disparaisses, car les hommes sont cruels, pollus. Tu brûles tout ce qui leur fait obstacle. Mais, toi, jamais tu ne céderas. Tes antennes rétractiles sentent les forces telluriques remontant du centre de la terre. ton corps allongé et taché de noir se confond au sol marneux, avançant sans bruit, persévérant comme une panthère. Biographie. Vincent Calvet est né en 1980. Il est lauréat du prix de la ville de Béziers en 2005 pour Solitude des rivages, Encre et lumière 2006, et du prix de la vocation en 2007 pour La haute folie des mers, chaîne 2007. En 2010, il rencontre Paul Sanda, avec qui il fonde la revue Mange-Monde, 17 numéros. Il est traduit en espagnol, arabe, russe. Il participe à des festivals en France, Voix vive, 7, Festival de la parole poétique de Quimperlé, Festival de poésie actuelle de Cordes sur Ciel, Gratte-Monde à Grenoble, Galerie le 13 à Isle-sur-Tête et à l'étranger. Lauréat du prix Marc Sabatier-Lévêque en 2018 pour Continuum amoureux, R de Surtis, 2011. En 2018, publication avec le poète tunisien Ayman Hassen d'une anthologie collective Requiem pour Gaza, préfacée par Adonis. En 2019, il devient rédacteur en chef de la revue Sémaphore, maison de poésie de Quimperlé. Il réalise des livres d'artistes avec André Robert, André Jolivet et Armand Dupuis, livres pauvres. En 2021, il lance avec Paul Sanda une nouvelle revue alliant poésie, philosophie et ésotérisme, Septième Sens, édition Raphaël des Surtis. Biographie. Cyril Hurel, Kyrillos, est né à Rouen en 1972. Après des études d'histoire, il devient professeur des écoles. Curieux de tout et passionné par le monde qui l'entoure, il commence à pratiquer tôt la photographie, signe des papiers sur l'architecture et la décoration d'intérieur dans la presse spécialisée, et se voit confier la culture dans le Courrier de l'Ouest, durant un séjour de 3 ans à Saumur. Dans les années 2000, il s'installe en Aveyron avec sa famille, puis s'installe sur le plateau de l'Aubrac. Il se passionne très vite pour cette région sauvage et mystique. Il découvre le milieu rural à travers les familles de l'école dont il devient le directeur, près de la Guiole. Il rencontre à ce moment-là Vincent Calvet, qui enseigne un an à ses côtés. Ils deviennent amis et ne se perdront jamais de vue. En 2016, ayant besoin de se recentrer sur l'essentiel, il se met à l'aquarelle, réalise des dessins naturalistes ou des paysages sous le pseudonyme Kyrillos. Participe à des projets avec la prestigieuse Maison Bras ou le centre thermal de la Chaldette. Il réalise, à la demande de son ami Vincent, les illustrations de couverture d'Elébore aux éditions du Petit Pois. Il expose ses œuvres à plusieurs reprises. Son logo commence à être identifié. En 2019, il découvre l'encre, l'adopte immédiatement pour son côté graphique. En 2020, il décide d'ajouter un volet édition à son travail. Il contacte Vincent Calvet pour lui proposer un premier projet de livre, Insectographie. Le livre devient l'alliance magique de ses dessins et des textes du poète. L'endroit où il se plaît le plus reste son plateau d'adoption qu'il parcourt, sac au dos, palette à la main, dès qu'il a un peu de temps, à la recherche de sujets, de nouvelles lumières, pour retranscrire sa vision graphique et onirique de l'Aubrac. Quatrième de couverture. Insectographie est née d'une amitié, celle d'un artiste, Cyril Hurel, et d'un poète, Vincent Calvet. Insectographie, ce sont des poèmes en dessin et du dessin de texte. Abeilles, carabes dorées, capricornes, duchesnes, Apollon, éphémères, prennent une autre dimension. Les deux co-auteurs nous emmènent dans un univers entre sciences et lettres, apportant un nouveau visage à l'entomologie dans lequel le lecteur pourra déambuler et se perdre à plaisir en vivant une unique et nouvelle expérience. Ici se termine, Insectographie de Vincent Calvet et Cyril Hurel. Enregistré par Christiane Johan. Illustration musicale de Pascal Krieg. Site arthurian.fr. Tout droit réservé.